l'ONU dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, un an de gouvernance militaire au Niger, bilan et débat sur la sécurité, la liberté d'expression et les alliances internationales sous le général Abdourahmane Tchiani. L'armée malienne reconnaît d'importantes pertes après des combats à Tinzaouaten, revendiqués par des groupes armés Touareg djihadistes, avec des vidéos montrant des cadavres et des affirmations de pertes parmi les soldats russes et maliens. C'est notre fait marquant de la semaine. À Tombouctou, nous découvrons Gandia Boutana, l'artiste qui redonne vie aux habits usés avec son style unique, tout en conciliant musique et peinture pour aider les enfants défavorisés. De la Honda Civic à la limousine, Sao Ouedraogo, le mécanicien de Ouagadougou, qui transforme des voitures ordinaires en véhicules de rêve. Une histoire de passion et d'innovation, comme vous allez le suivre. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Le 26 juillet marquait le premier anniversaire du coup d'état militaire au Niger qui a renversé le régime du président Mohamed Bazoum, portant le général Abdourahmane Tchiani au pouvoir. Un an plus tard, le bilan de sa gestion reste controversé. Certains louent la sécurité et la liberté d'expression retrouvées, tandis que d'autres critiquent une situation sécuritaire dégradée. Le pays a également redéfini sa coopération internationale. Voici un reportage de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
Ce jour, la dégradation continue de la situation sécuritaire du pays était une des raisons qui a justifié l'action du général Abdourahmane Tchiani et ses hommes réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 26 juillet 2023. Un an après, il affirme que des succès ont été enregistrés sur ce plan.
Au plan de la défense et de la sécurité du territoire, la montée en puissance de nos forces sur les théâtres des opérations ne fait plus aucun doute. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme dans le Liptako-Gourma et dans le bassin du lac Tchad, ou dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, nos forces de défense et de sécurité engrangent des succès.
Des succès qui ne font cependant pas l'unanimité au sein de l'opinion.
Je pense que les résultats sont mitigés à mauvais. L'insécurité est en train d'être exacerbée.
Pour d'autres citoyens, un des mérites du coup d'État du 26 juillet 2023, un an après, c'est la rupture d'avec les pratiques qui avaient été décriées sous l'ancien régime.
La première chose qu'on peut qualifier de positive, c'est le fait même de renverser le pouvoir de la 7e République qui a bâillonné les libertés des Nigériens.
La parole est donnée au peuple, les gens s'expriment, même si les activités des partis politiques sont suspendues, il n'en demeure pas moins que les gens quand même s'expriment librement.
S'il n'y avait pas eu l'intervention du CNSP le 26 juillet, peut-être DSLC, où sera le Niger aujourd'hui?
Pour l'analyste Abdoulaye Bagnou, en l'absence d'éléments de référence, dresser un bilan de la gestion des autorités militaires serait un difficile exercice.
Pour parler d'un bilan, c'est qu'il faut qu'on sache préalablement où est-ce qu'on devait y aller. Et vous savez que ça fait un an, le CNSP a travaillé, c'est sûr, mais en tout cas, il n'y avait pas de programme. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu de programme pour dire voilà ce que nous allons faire pour qu'au bout d'un moment, qu'on puisse dire voilà, ils devaient faire ça, ils ne l'ont pas fait. Mais peut-être qu'il faudrait mettre à l'heure des charges le fait qu'il y avait des préalables, notamment des questions de sécurité et autres à régler.
L'affirmation de la souveraineté pleine et entière du Niger est une des volontés du général Abdramane Tchani et ses compagnons. Dans ce sens, ils ont pris leur distance vis-à-vis des puissances occidentales telles que la France et les États-Unis et se sont retirés de la CEDEAO, comme leurs voisins maliens et burkinabés avec qui ils forment la Confédération des États du Sahel. Ils se sont rapprochés de partenaires comme la Russie. Abdul Razak Idrissa pour VOA Afrique.
Nous sommes en ligne avec Abdulrazak Idrissa pour continuer la discussion. Razak, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, lors de la réalisation de votre reportage, avez-vous rencontré des personnes ou des groupes qui ont choisi de ne pas partager leur opinion sur la situation actuelle au Niger? Si oui, pouvez-vous nous dire quelles étaient leurs raisons pour ne pas vouloir s'exprimer?
Oui, on peut le dire, puisque dans le cadre justement de la réalisation de ce reportage, donc bilan de l'an 1 du CNSP au pouvoir, nous avions voulu avoir une diversité d'opinions sur ce bilan et nous sommes donc adressés à des personnes plus ou moins qui ont soutenu ou qui étaient donc proches du régime du CHU. Effectivement, certains n'ont pas voulu vraiment s'exprimer, bon, parce qu'ils estiment que c'est quand même leur régime qui a été déchu et qu'ils n'avaient pas véritablement, on va dire, d'opinion ou d'appréciation à faire de l'an 1 d'un régime contre lequel il se dresse d'une certaine façon. Donc voilà en gros les principaux arguments qu'ils avancent pour ne pas se prononcer, on va dire, sur le premier anniversaire du coup d'État qui a renversé le régime du président Bazoum-Ahmed.
Est-ce que les médias locaux ont-ils organisé des débats pour discuter justement du bilan du gouvernement militaire après un an de gestion? Les opinions pro et anti-régime militaire ont-elles eu l'occasion de s'exprimer? Si oui, Quels ont été les principaux points abordés dans ces débats, Razak?
Oui, bien sûr. À l'occasion de cet anniversaire, il y a eu quand même des débats, des initiatives des médias locaux pour apprécier un peu cette année de gestion du CNSP. Et il y a eu quand même des opinions assez divergentes sur le sujet. Mais les principales... disons les principaux griefs qui sont faits au régime du CNSP, c'est surtout cette question de la gestion sécuritaire qui était un des arguments qui avait été mis en avant par le CNSP pour renverser le régime du président Bazoum. Là-dessus, ils estiment que la situation est quand même assez déplorable avec la multiplication des attaques terroristes, notamment dans la zone des trois frontières. Il y a aussi certaines critiques ou disons des fortes attentes par rapport au coût de la vie qui s'est renchéri depuis les événements du 26 juillet, et cela du fait des sanctions, mais aussi et surtout cela avec la situation de la fermeture de la frontière du Bénin, le port du Bénin étant le port le plus proche du Niger. Donc il y a véritablement un renchérissement du coût de la vie du fait de cette situation, et c'est des aspects sur lesquels les opinions ont divergé. Beaucoup pensent que les autorités militaires peuvent vraiment améliorer dans les années à venir, ou en tout cas dans les mois à venir, améliorer la gestion de l'État sur ces deux aspects notamment.
Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey. Merci Razak pour toutes ces précisions. Je vais lire ce commentaire de Bazema sur notre page Facebook. Il dit ceci, je cite... Il semble prématuré de juger la gestion du général Tchani. Dès son arrivée, il a dû faire face à un embargo de la CEDEAO et à des sanctions internationales, ce qui complique la mise en œuvre de ses programmes. De plus, tout changement de régime entraîne une désorganisation générale, nécessitant de repartir de zéro. Par ailleurs, au-delà de la coopération avec l'Alliance du Sahel, il serait bénéfique pour le régime de Niamey de s'ouvrir à d'autres partenaires, ce qui profiterait à la population. Merci. Signé Charles Bazema. Nous approfondissons la discussion avec Saïdik Abba, président du Centre international d'études et de relations sur le Sahel, auteur de plusieurs ouvrages sur la région. Bonsoir Saïdik.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous vos auditeurs.
Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger, c'est votre dernière apparition. Ma première question, Saïdik, Quel bilan peut-on tirer de cette première année sous la gestion du général de Tchiani? Quels ont été, selon vous, les succès et les échecs les plus marquants de cette période, brièvement?
Non, comme tout bilan, celui de CNSP et du général Tchiani a des points positifs, particulièrement la souveraineté, la réaffirmation de la souveraineté du Niger, qui s'est traduite par exemple par le retrait du permis que Orano ex-Areva détenait depuis plusieurs années, ou le retrait du permis de Govi-Viex dans les rapports avec les partenaires internationaux. Il y a une affirmation de la souveraineté du pays. Il y a aussi la question de la résilience. Beaucoup avaient parié sur l'effondrement du Niger en raison des sanctions économiques prises par la CEDEAO et la suspension des aides des institutions financières internationales. Tout cela peut être mis au compte du bilan du président Tchiani, et l'affirmation aussi de la souveraineté sur les questions de défense et de souveraineté avec le départ des forces françaises, le départ des forces américaines. Voilà pour la partie positive. Maintenant, pour les faiblesses, elles ont été rappelées. Il y a principalement la question sécuritaire, qui est une des raisons du coup d'État sur laquelle on n'a pas de résultats. Lorsqu'on regarde de façon très objective, le nombre d'incidents a augmenté par rapport à la période de Bazoum. Le nombre de la question de la létalité, c'est-à-dire les victimes par incident, a augmenté par rapport à la période de Bazoum. Et il y a eu enfin une extension géographique de la menace, puisque sur le front nord, la frontière avec l'Algérie et la Libye, il s'est créé deux mouvements rebelles nouveaux qui n'existaient pas avant le coup d'État, le Front patriotique pour la libération et le Front patriotique pour la justice. Enfin, toujours sur la question du bilan, les faiblesses du bilan, il y a la question de la gouvernance. Vous savez que le CNSP a avancé, en tout cas parmi les arguments, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Or, on remarque que sur ce plan, en dépit de la mise en place de la commission pour la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, la COLDEF, qui a recueilli, qui a obtenu des résultats, il n'y a pas eu de véritable. Les dossiers emblématiques tels que le MDN Gates, les autres dossiers, n'ont pas connu d'avancée particulière. Et on remarque aussi que là aussi, il y a eu des travers dans la gouvernance, l'attribution de marchés de gré à gré, ou la question, l'ordonnance loi qui sanctuarise les dépenses de défense et de sécurité, qui dit qu'aucune dépense de sécurité ne peut faire l'objet de contrôle. Et ça a été élargi, fait inédit dans l'histoire du pays, aux dépenses sur le palais présidentiel. Donc, on ne peut pas reprocher la mauvaise gouvernance économique et sociale avec nombre de... Donc, il y a des forces et des faiblesses dans le bilan du CNSP à la tête du Niger.
Donc, pour vous, cette transition n'a pas effectivement permis d'instaurer une gouvernance plus transparente et respectueuse des libertés. Le coup d'État avait justifié en partie par la volonté de rompre avec les pratiques de l'ancien régime.
Non, sur la question de la gouvernance, elle n'est pas plus vertueuse que celle du régime qui a été... Il y a des survivances pendant cette transition, l'attribution de marchés de gré à gré, comme j'ai évoqué, et la question de l'impossibilité de vérifier les dépenses de sécurité et de dépenses, y compris, par exemple, les questions les dépenses qui sont liées au palais présidentiel. Sur le plan des libertés, il y a eu la modification de la loi sur la cybercriminalité, puisque le régime de Bazoum a modifié la loi qui était en vigueur pour concéder le fait qu'on ne puisse pas mettre les gens en prison, particulièrement les journalistes, sur cette question. Mais le régime du CNSP a rétabli les peines de prison avec même une aggravation des peines contre les personnes poursuivies. De ce point de vue, même si le régime n'a pas basculé comme au Burkina ou au Mali, où on enlève des gens, où on poursuit des gens sans justification, il y a quand même quelques entorses à la liberté qui ont été faites et qui sont contraires aux promesses qui avaient été faites
C'est dit qu'en observant les autres régimes militaires au Sahel, justement comme ceux du Mali et du Burkina Faso, quel défi commun identifiez-vous pour ces pays? Quels seraient, selon vous, les éléments clés pour qu'ils parviennent à remettre leur nation sur les rails? Nous avons une minute et demie.
Je pense qu'il faut d'abord très vite rétablir la question de la démocratie et de l'espace. On a besoin d'un agenda pour savoir à quelle échéance ces régimes-là vont revenir dans l'ordre constitutionnel normal. Quand est-ce que les élections vont avoir lieu? Pour l'instant, dans aucun des pays, on a un agenda clair de la fin de la transition militaire. La deuxième chose, c'est rapidement la question de la sécurité. Il faut que ces pays se mettent ensemble pour renverser le rapport de force avec les groupes djihadistes. Or, pour l'instant, quand on regarde ce qui se passe dans chacun des pays, on n'a pas l'impression qu'ils ont réussi à renverser le rapport de force. Je pense que la création de la Confédération des États du Sahel va permettre de construire rapidement une architecture de défense et de sécurité commune, renverser le rapport de force. Et puis, troisièmement et enfin, je pense que le grand défi, c'est le défi économique. La question du pouvoir d'achat des populations, de l'amélioration de leurs conditions de vie. Il y a des défis sur le plan de la fourniture d'électricité dans chacun des pays. Il y a aussi la question de renchérissement du prix de céréales, comme il a été indiqué dans le cadre du Niger. Et il y a aussi au Burkina des questions économiques. Donc les citoyens attendent ces régimes-là sur ce plan-là rapidement, que leurs conditions de vie puissent changer, à mon avis, ce versa. Et le temps joue contre les régimes parce que plus ils prendront du temps, plus il y aura des questions concrètes qui vont se poser par rapport à l'amélioration de la condition de vie, par rapport au retour à la démocratie. Et je pense que ces régimes sont très attendus et il faut qu'ils fassent vite.
Merci beaucoup, Sédic Abba, président du Centre international d'études et de relations sur le Sahel, auteur de plusieurs ouvrages sur la région, la dernière parution, Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger. Merci pour vos perspectives sur la région.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation, les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
À Tombouctou, Gandia Boutana, artiste et musicien et peintre, redonne vie aux habits usagés avec son style unique appelé la Boutana. Son atelier attire de nombreux jeunes et personnalités de la ville. Gandia vise surtout à aider les enfants défavorisés en leur offrant des vêtements recyclés. Il se distingue par sa passion pour l'art. Son portrait avec notre correspondant à Tombouctou, Ali Hossein Al-Hadji. Récit signé Lionel Runamira Gahima.
Un pinceau, de la teinture, une table, c'est tout ce qu'il faut à cet artiste Gandia Boutana.
Les bogolans, je fais les bogolans, je fais les galamans en même temps. J'ai créé mon propre style qu'on appelle la Boutana, qui est cet style que vous voyez ici. C'est dans ça que j'arrive à faire des t-shirts, des basins, les gens amènent leurs anciens habits, je les rends nouveaux.
Le premier objectif de Gandia à travers son art est d'offrir plus d'opportunités aux enfants issus des familles démunies. Avec quelques touches de pinceau, aussi vieux qu'il soit, l'habit réapparaît neuf.
Et précisément, la base même, c'est les enfants pauvres qui n'ont pas cette force de pouvoir se faire acheter une nouvelle habit. L'ancien, tu l'amènes, je le rends nouveau, je te le donne. Et puis tu es classique dans la société. Ça passe. Cette complexe, tu les mets à côté.
À Tombouctou, où il a ouvert un atelier de fortune, les jeunes se bousculent pour être les premiers servis. Chacun veut le modèle le plus stylé.
C'est un véritable virtuose. Ici, la forte chaleur ou le soleil alterne nos habits. Du coup, je les amène ici pour leur donner une nouvelle vie. C'est tellement classe. En ville, d'autres personnes me demandent là où j'ai pu me confectionner l'habit. Cela constitue une opportunité pour lui aussi.
La Boutana est un concept créé par Gandia lorsqu'il a réalisé que la musique seule ne pouvait suffire à joindre les deux bouts. C'est là qu'est née l'idée de refaire les habits usagés avec plusieurs motifs, selon le choix du propriétaire.
Avec cette crise, tout a été sur le temps standard, le temps mort. Parce que disons ici, les artistes, ils n'ont pas trop cet avantage de pouvoir évoluer. Avec cette situation aussi, ça a tout bloqué. Donc forcément, on n'a pas le choix. Les artistes cherchent de gauche à droite pour pouvoir s'en sortir.
Gandia est un artiste qui ne chôme pas. Rappeur, animateur, vendeur de fripes, Gandia fait l'affaire de tout le monde. Il arrive même que les personnalités de la ville amènent leurs habits usagés pour leur donner une nouvelle vie.
Il vient de m'apporter certains de mes habits. Les gens me demandent. Partout où tu vas, à Tombouctou aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de son travail.
Polyvalent, Ibrahim Oluegam, dit Gandia Boutana, est aussi un musicien avec un style particulier.
Première position quand même. Je le fais avec une grande passion parce que j'aime beaucoup l'art, surtout la musique et la peinture. Tout ce qui concerne l'art. Et puis c'est ça aussi. Pour moi, c'est ça la force de toute chose. L'art, c'est l'amour et puis nous sommes dedans un bas pendant qu'on a ce
titre. Gandia a un conseil aux jeunes. Avoir confiance en soi et s'armer de talent.
L'armée malienne a reconnu d'importantes pertes après des combats à Tinzawaten, dans le nord du pays. Les affrontements survenus jeudi ont impliqué les FAMA contre une coalition qualifiée de terroriste par Bamako. Les rebelles ont revendiqué des victoires et diffusé des vidéos indiquant des pertes significatives dans le camp adverse, y compris des membres du groupe Wagner. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Abdallah, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment l'évolution sécuritaire au Mali, vous évaluez cette situation suite au récent combat à Tinzawaten? Est-ce qu'elle pourrait influencer la stratégie militaire des FAMA dans les mois à venir?
Merci beaucoup. Vous me permettrez juste de rappeler que ce qui vient de se passer à Tinzawaten est la continuation d'une rébellion du nord du Mali qui date depuis 1962. De 1962 à 1964, il y a eu toujours des rébellions dans le nord. Elles ont malheureusement toujours été mal gérées. Il y a eu d'abord l'accord de 1992, avril 92, l'accord de Tamara 7 en 1991, qui a permis d'arrêter les combats. Ensuite, il y a eu le pacte national d'avril 92, qui a essayé de consolider, il a réussi en partie. 96, les flammes de la paix, et tout ça n'a pas empêché les rébellions, dont ce que nous vivons maintenant, malgré les accords d'Alger, les premiers accords de juillet 2006, suite à des mouvements de rébellion, ainsi de suite. Il y a une rébellion en 2008 avec un monsieur Ibrahim Bahanga, qui est mort plus tard, et en janvier 2012, la rébellion qui dure jusqu'à présent, malgré les accords d'Alger du 15 juin 2015. Je dédie, pas pour être long, mais quand il y a une crise structurelle, la responsabilité du gouvernement malien, des leaders de l'opposition, est de trouver un règlement durable et ne pas venir dans les périodes passées que c'est la faute des X ou des Y. Le Mali est un pays central, un pays important pour la région par son marché, aussi sa production, en particulier agricole. Et cette crise, je suis très sceptique quant au règlement. Ce qui vient de se passer et qui implique une puissance étrangère, les Russes en l'occurrence, après les Français dans les années 2012 jusqu'à l'année dernière, interpelle le Malien, non seulement le gouvernement, mais l'opposition et la société civile et les amis de ce pays.
Comment évaluez-vous l'impact de cette escalade des violences sur les relations entre le Mali et l'Algérie?
Alors, les relations étaient déjà mauvaises depuis la rupture de le refus malien d'accepter les accords d'Alger du 15 juin. Je pense qu'il y a un problème de communication entre les deux pays. C'est des pays qui ont toujours été très proches parce qu'ils ont le même problème. Ils ont le problème Touareg qui se pose en Algérie en partie, mais qui se pose aussi au Mali. Donc, cette situation, je n'ai pas de doute que le gouvernement à Bamako va revoir sa position. L'Algérie va certainement pousser à plus d'explications et de compréhension. C'est une crise qui menace les deux pays, mais au-delà des deux pays, elle menace le Niger, elle menace le Burkina Faso,
En quelques secondes, Monsieur Abdallah, comment la présence des Wagner et leurs pertes affectent-elles les dynamiques de pouvoir et de sécurité dans le Sahel?
Alors, la peur de Wagner est essentiellement d'abord une peur de prestige pour des soldats censés être invincibles et solides. Je ne pense pas que la Russie va les retirer, parce que ce serait une défaite, mais la Russie a reçu un message très clair. Le nord du Mali, la rébellion du Sahel qui concerne le Niger et le Burkina n'est pas comme celle de Centrafrique, n'est pas comme celle de Libye. C'est une crise structurelle qui dure depuis plus.
Merci beaucoup Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Dans son atelier de Ouagadougou, au Burkina Faso, le mécanicien Sao Ouedraogo consacre des heures à réparer, personnaliser et transformer des automobiles. Sa dernière prouesse, transformer une voiture ordinaire en une véritable limousine. Depuis la capitale burkinabé, notre correspondant Gilles Dasda nous dévoile l'histoire fascinante de son passionné, le récit avec Jean-Roger Bion.
En 2023, Sao Ouedraogo, 38 ans, passionné d'ingénierie, s'est lancé dans un projet audacieux. Ce qui n'était qu'une modeste Honda Civic a été transformé en une limousine glamour.
Et j'aime aussi les défis. Voilà, ça m'a mené à découper les véhicules. Et quand je le faisais, tout le monde, la famille, les amis, les clients du garage, tout le monde disait que non, c'est pas la peine, que je vais casser le véhicule. Je dis non, ça m'appartient. Voilà, laissez-moi faire. Donc, c'est quand j'ai fini de réaliser, je suis venu voir que moi, c'était vraiment une limousine qui roule très bien.
Ouedraogo aime les voitures depuis l'âge de 12 ans. Après avoir échoué à l'école primaire, il a suivi des cours de mécanique et a effectué de petits travaux dans d'autres garages. Il a fini par ouvrir son atelier en 2016. Depuis, il a réussi à en faire un garage opérationnel qui emploie 15 personnes.
C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, son courage et les défis aussi qu'il aimerait relever. On est tous partants pour relever ces défis dans le secteur de l'automobile.
La fascination de Ouedraogo pour les limousines lui vient des vidéoclips, de chanteurs américains et des films qu'il regarde à la télévision depuis son enfance. Il rêvait d'en avoir une et a donc décidé d'en construire. Ouedraogo explique que la construction d'une limousine n'est pas une tâche facile. Il a parfois dû casser des choses et recommencer pour obtenir la bonne structure et les bons matériaux. Il lui a fallu un an pour se préparer, dessiner ses plans et affiner ses recherches.
Le matériel que j'ai utilisé, c'est des matériels de récupération. D'autres sont des tôles que j'ai achetées, neufs, des barres de fer et métalliques que j'ai réussi à acheter et puis pouvoir rassembler et voilà, la carrosserie.
Une limousine circulant dans les rues de Ouagadougou est un spectacle qui fait tourner les têtes.
J'ai eu la chance de rentrer dans la limousine aujourd'hui. Et vraiment, côté confort, je ne peux que dire que c'est vraiment confortable. On est vraiment à l'aise avec une climatisation qui donne vraiment à fond. Vraiment, je tiens à féliciter le concepteur parce qu'il a fait vraiment un bon boulot. Et dire que ça a été fabriqué au Burkina, bon, vraiment, il est vraiment à féliciter.
En plus de la limousine, Ouedraogo a transformé plusieurs voitures standards en cabriolet ou en camion de barbecue. C'est une voiture équipée d'un système de cuisson intégré qui peut être utilisée pour griller de la viande. La voiture contient également un réservoir d'eau potable.
Il aime aussi encore se donner au fond en termes d'innovation, de création et modification du tunnel. En plus, beaucoup de choses. Oui, j'aimerais aussi apprendre aussi et puis faire autre chose, plus apprécier ce que mon patron est en train de faire.
C'est une passion pour nous déjà de créer, d'inventer, de fabriquer des pièces de voitures et de certaines voitures. Voilà, c'est d'abord une passion pour nous. Après...
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci de nous avoir suivis. Eric Manilakis a été avec vous. Michel, Claire, Joseph, Trésor, Matondo ont assuré la production et la réalisation. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.